France Culture.
Les évidences nocturnes, notes sur Nevers. Sur l'image de la mort de l'Allemand. Ils sont tous les deux à égalité en proie à cet événement, sa mort à lui. Il n'y a aucune colère ni chez l'un ni chez l'autre, il n'y a que le regret mortel de leur amour. Même douleur, même sang, même larmes. L'absurdité de la guerre, mise à nu, plane sur leur corps indistinct. On pourrait la croire morte, tellement elle se meurt de sa mort à lui. Il essaie de lui caresser la hanche, comme dans l'amour, il le lui faisait, il n'y arrive plus. On dirait qu'elle l'aide à mourir, elle ne pense pas à elle, mais seulement à lui. Et que lui la console, s'excuse presque d'avoir à la faire souffrir, d'avoir à mourir. Quand elle est seule, à cet endroit même où ils étaient tout à l'heure, la douleur n'a pas encore pris place dans sa vie. Elle est simplement dans un indicible étonnement de se retrouver seule. Sur l'image du jardin duquel on a tiré sur l'Allemand. On a tiré de ce jardin comme on aurait tiré d'un autre jardin de Nevers. De tous les autres jardins de Nevers, seul le hasard a fait que ce soit de celui-ci. Ce jardin est désormais marqué au signe de la banalité de sa mort. Sa couleur et sa forme sont désormais fatidiques. C'est de là que sa mort est partie, éternellement. Un soldat allemand traverse une place de province pendant la guerre. Quelque part en France, vers la fin de l'après-midi, un certain jour, un soldat allemand traverse une place de province. Même la guerre est quotidienne. Le soldat allemand traverse la place comme une cible tranquille. Nous sommes dans le fond de la guerre, le moment où l'on désespère de son issue. Les gens ne prennent plus garde aux ennemis. L'habitude de la guerre s'est installée. La place du Champ de Mars reflète une désespérance tranquille. Le soldat allemand la ressent aussi. On ne parle pas assez de l'ennui de la guerre. Dans cet ennui, des femmes derrière des volets clos regardent l'ennemi qui marche sur la place. Ici, l'aventure se limite au patriotisme. L'autre aventure doit être étranglée. On regarde, n'empêche, rien à faire contre le regard. Sur les images des rencontres entre Riva et le soldat allemand. Nous nous sommes embrassés derrière les remparts, la mort dans l'âme, mais dans un irrépressible bonheur, j'ai embrassé mon ennemi. Les remparts étaient toujours déserts pendant la guerre. Des Français y furent fusillés pendant la guerre et après la guerre des Allemands. J'ai découvert ses mains quand elles touchaient des barrières pour les ouvrir devant moi. Ses mains me donnèrent très vite l'envie de les punir. Je mords ses mains après l'amour. C'est dans les murs de la ville que je suis devenue sa femme. Je ne peux pas encore me souvenir de la porte du fond du jardin. Il m'attendait, là, des heures parfois, la nuit surtout, chaque fois qu'un instant de liberté m'était donné. Il avait peur. J'avais peur. Quand il fallait traverser la ville ensemble, je marchais devant lui, dans la peur. Les gens baissaient les yeux. Nous crûmes à leur indifférence. On a commencé à devenir imprudents. Je lui demandais de traverser la place derrière la grille de « afin qu'une fois je puisse l'apercevoir dans le jour ». Il passait donc chaque jour devant cette grille, les yeux baissés, il se laissait regarder par moi. Dans les ruines, l'hiver, le vent tourne sur lui-même, le froid. Ses lèvres étaient froides. Nevers, où je suis née, dans mon souvenir, est indistinct de moi-même. C'est une ville dont un enfant peut faire le tour, délimitée d'une part par la Loire, d'autre part par les remparts. Au-delà des remparts, il y a la forêt. Nevers peut être mesuré au pas d'un enfant. Nevers se passe entre les remparts, le fleuve, la forêt, la campagne. Les remparts sont imposants. Le fleuve est le plus large de France, le plus renommé, le plus beau. Nevers est donc délimité comme une capitale. Quand j'étais une petite fille et que j'en faisais le tour, je la croyais immense. Son ombre dans la Loire tremblait, l'agrandissant encore. Cette illusion sur l'immensité de Nevers, je l'ai gardée longtemps, jusqu'au moment où j'ai atteint l'âge d'une jeune fille. Alors Nevers s'est fermée sur elle-même. Elle a grandi comme on grandit. Je ne savais rien des autres villes. J'avais besoin d'une ville à la taille de l'amour même. Je l'ai trouvée dans Nevers même. Dire de Nevers qu'elle est une petite ville, est une erreur du cœur et de l'esprit. Nevers fut immense pour moi. Le blé est à ses portes, la forêt est à ses fenêtres, la nuit des chouettes en arrive jusque dans les jardins. Aussi faut-il s'y défendre d'y avoir peur. L'amour y est surveillé comme nulle part ailleurs. Des gens seuls y attendent leur mort. Aucune autre aventure que celle-là ne pourra faire dévier leur attente. Dans ces rues tortueuses se vit donc la ligne droite de l'attente de la mort. L'amour y est impardonnable. La faute à Nevers est d'amour. Le crime à Nevers est le bonheur. L'ennui y est une vertu tolérée. Des fous circulent dans ces faubourgs, des bohémiens, des chiens et l'amour. Dire du mal de Nevers serait également une erreur de l'esprit et du cœur. Un soldat allemand vient de se faire panser la main dans la pharmacie du père de Riva. Dans ce plein été, je portais des chandails noirs. Les étés sont froids à Nevers. Été de la guerre. Mon père s'ennuie, les rayonnages sont vides. J'obéis à mon père comme une enfant. Sa main brûlée, je la regarde. Je lui fais mal en lui faisant son pansement. Le temps de lever les yeux, je vois ses yeux. Ils sont clairs. Il rit parce que je lui fais mal. Je ne ris pas. Seul, dans ma chambre à minuit, la mère de la place du Champ de Mars bat toujours derrière mes volets. Il a dû encore passer ce soir. Je n'ai pas ouvert mes volets. Je devins sa femme dans le crépuscule, le bonheur et la honte. Quand ça a été fait, la nuit était venue sur nous. Nous ne nous en étions pas aperçus. La honte avait disparu de ma vie. Nous avons été joyeux de voir la nuit. J'avais toujours eu peur de la nuit. Celle-là était une nuit noire comme jamais je n'en ai vu depuis. Ma patrie, ma ville, mon père ivre s'y trouvèrent noyés, avec l'occupation allemande, dans le même sac. Nuit noire de la certitude. On la regardait avec attention et ensuite avec gravité. Puis une à une, des montagnes sont montées à l'horizon. L'amour sert à mourir plus commodément à la vie. Ce jardin pourrait faire croire en Dieu. Cet homme, ivre de liberté, avec sa carabine, cet inconnu de la fin de juillet 44, cet homme de Nevers, mon frère, comment aurait-il pu savoir ? Riva ne parle plus elle-même quand cette image apparaît. Donner un signe extérieur de sa douleur serait dégrader cette douleur. Elle vient seulement de le découvrir, mourant sur le quai, dans le soleil. C'est pour nous autres que l'image est insupportable. Pas pour Riva. Riva a cessé de nous parler. Elle a cessé, tout simplement. Il vit encore, Riva, sur lui, et dans l'absolu de la douleur. Elle est dans la folie. La voir lui sourire à ce moment-là serait même logique. La douleur a son obscénité. Riva est obscène, comme une folle. Son entendement a disparu. C'était son premier amour. C'était sa première douleur. Nous pouvons à peine regarder Riva dans cet état. Nous pouvons rien faire pour elle. Qu'attendre ? Attendre que la douleur prenne en elle une forme reconnaissable et décente. Fresson meurt. Il est comme lié au sol. Il a été pris de plein fouet par la mort. Son sang coule de lui comme le fleuve et comme le temps. Comme sa sueur. Il meurt comme un cheval avec une force insoupçonnable. Il est très occupé à cela. Puis une douceur interviendra avec sa venue à elle et la certitude de l'inutilité de lutter contre sa mort. Douceur des yeux de Fresson. Il se sourit. Oui, tu vois mon amour, même cela nous était possible. Triomphe funèbre, accomplissement. Je suis sûre de ne pas pouvoir te survivre, à ce point que je te souris. Le soleil fut, ce jour-là, glorieux. Mais comme chaque jour, cependant, le crépuscule est arrivé. Ce qui reste de Riva, sur ce quai, se réduit au battement de son cœur. Il a plu vers les heures de fin de l'après-midi. Il a plu sur Riva, comme il a plu sur la ville. Puis, la pluie a cessé. Puis, Riva était tondue. et il reste sur le quai, la place sèche de Riva, place brûlée. Sur ce quai, on dirait qu'elle dort. Elle est à peine reconnaissable. Des bêtes passent sur ses mains salies par le sang. Chien ? Riva ne parle pas encore. L'été continue impunément. La France entière est en fête, dans le désordre et la joie. Les fleuves, eux aussi, coulent toujours impunément. La Loire. Les yeux de Riva comme la Loire coulent, mais ordonnés par la douleur dans ce désordre. La cave est petite, comme elle pourrait être grande. Riva crie, comme elle pourrait se taire. Elle ne sait pas qu'elle crie. On la punit pour lui apprendre qu'elle crie, comme une sourde. Il faut qu'on lui apprenne à entendre quand elle crie. On lui a raconté ça après. Elle s'écorche les mains, comme une imbécile. Les oiseaux, lâchés dans les chambres, se rognent les ailes et ne sentent rien. Riva se fait saigner les doigts et mange son sang ensuite. Fait la grimace et recommence. Elle a appris un jour sur un quai à aimer le sang, comme une bête, une salope. Il faut bien regarder quelque chose. Riva n'est pas aveugle, elle regarde. Elle ne voit rien, mais elle regarde. Les pieds des gens se laissent regarder. Les gens qui passent, passent dans un univers nécessaire, le vôtre et le mien, dans une durée qui nous est familière. Le regard de Riva sur les pieds de ces gens, aussi significatif que leur visage, se passe dans un univers organique, déserté par la raison. Elle regarde un monde de pieds. Le père de Riva. Le père est fatigué par la guerre. Il n'est pas méchant, il est abruti par ce qui lui arrive et qu'il n'a pas voulu. Il est habillé en noir. La mère de Riva. La mère est vive, bien plus jeune que le père. Ce qu'elle aime le plus au monde, c'est son enfant. Quand Riva crie, elle s'affole pour elle. La mère a peur que l'on fasse encore du mal à son enfant. Elle tient toute la maison dans ses mains. Elle est forte. Elle ne veut pas que Riva meure. Elle est avec son enfant d'une tendresse brutale, mais d'une tendresse sans limite. Contrairement au père, elle ne désespère pas de Riva. Ils la descendent dans la cave comme si elle avait 10 ans. Ils sont en noir. Riva, au milieu des deux, est habillée en clair. Chemise de nuit en dentelle, de très jeune fille, faite par la mère, par une mère qui oublie toujours que son enfant grandit. Riva dans la cave de Nevers et dans sa chambre d'enfant. Riva est dans un coin de la cave, toute blanche, là comme ailleurs toujours. Toujours des yeux de Loire, ceux du quai. Innocenté. Enfance terrifiante. C'est la nuit que sa raison revient. Qu'elle se souvient qu'elle est la femme d'un homme. Elle aussi, le désir la frapper de plein fouet. Qu'il soit mort n'empêche qu'elle le désire. Elle n'en peut plus d'avoir envie de lui. Mort. Corps vidé, haletant. Sa bouche est humide. Elle a la pose d'une femme dans le désir, impudique jusqu'à la vulgarité. Plus impudique que partout ailleurs. Dégoûtante. Elle désire un mort. Riva touche les objets de sa chambre. N'importe quoi peut être vu par Riva dans cet état. Tout un ensemble d'objets, ou ceux-ci pris séparément, peu importe, tout sera vu par elle. Riva lèche le salpêtre de la cave. Faute d'autre chose, le salpêtre se mange. Celle de pierre, Riva mange les murs. Elle les embrasse aussi. Elle est dans un univers de murs. Le souvenir d'un homme est dans ces murs, intégré à la pierre, à l'air, à la terre. Un chat entre dans la cave de Nevers. Le chat, toujours égal à lui-même, entre dans la cave. Il s'attend à tout. Riva a oublié l'existence des chats. Les chats sont domestiqués complètement. Leur conduite est de gentillesse. Leurs yeux ne sont pas domestiqués. Les yeux du chat et les yeux de Riva se ressemblent et se regardent. Vidés. Presque impossible de soutenir le regard d'un chat. Riva le peut. Elle entre peu à peu dans le regard du chat. Il n'y a plus dans la cave qu'un seul regard, celui du chat Riva. l'éternité échappe à toute qualification. Ce n'est ni beau, ni laid. Ça peut être un caillou, l'angle brillant d'un objet, le regard du chat, tout à la fois. Le chat qui dort, Riva qui dort, le chat qui veille, l'intérieur du regard du chat ou l'intérieur du regard de Riva, pupilles circulaires où rien n'accroche, immenses ces pupilles, des cirques vides où bat le temps. La place de Nevers, vue par Riva. La place continue. Où vont ces gens? Ils ont leur raison. Les roues des bicyclettes ressemblent à des soleils. Ce qui remue se regarde mieux que ce qui ne remue pas. Roues de bicyclette, les pieds, tout remue sur place. Parfois, c'est la mer. C'est même assez régulièrement la mer. Plus tard, elle saura que c'est l'aurore, ce qu'elle prend pour la mer. Ça lui donne sommeil. L'aurore, la mer. Du moment qu'elle n'est pas morte, ses cheveux repoussent, entêtement de la vie. De nuit, de jour, ses cheveux poussent sous le foulard en douce. Je caresse ma tête doucement. C'est meilleur à toucher. Ça ne pique plus les doigts. La tonte de Riva, à Nevers. Ils la tondent. Ils le font dans la distraction, presque. Il fallait la tondre. Faisons-le. Mais on a bien autre chose à faire ailleurs. Cependant, on fait notre devoir. L'endroit est parcouru par le vent chaud qui arrive de la place. Pourtant, on y a plus frais qu'ailleurs. La fille qui est tondue, c'est la fille du pharmacien. Elle tend presque sa tête au ciseau. Elle aide presque à l'opération comme un automatisme acquis, déjà. Ça fait du bien à la tête d'être tondue. Ça la rend plus légère. Elle est pleine de cheveux tombés sur elle. On tond quelqu'un quelque part en France. Ici, c'est la fille du pharmacien. La Marseillaise arrive avec le vent du soir, jusque dans la galerie et encourage à l'exercice d'une justice hâtive et imbécile. Ils n'ont pas le temps d'être intelligents. La galerie est un théâtre où rien ne se joue. Rien. Quelque chose aurait pu se jouer, mais la représentation n'a pas eu lieu. Une fois tondue, la fille attend. Encore, elle est à leur disposition. Du mal a été fait dans la ville. Ça fait du bien. Ça donne faim. Il faut que cette fille s'en aille. C'est laid, c'est peut-être dégoûtant. Comme elle a l'air de vouloir rester en ce lieu, il faut la chasser. On la chasse comme un rat, mais elle ne peut pas monter l'escalier très vite, aussi vite qu'on le désirerait. On dirait qu'elle a devant elle un temps énorme. On dirait qu'elle s'attendait encore à autre chose qui n'a pas eu lieu. Qu'elle est presque déçue de devoir encore remuer, avancer les jambes, se déplacer. Elle trouve que la rampe est faite pour s'aider à faire cela. Portrait de Riva, recommencement de sa raison. Elle tourne en rond, du temps a passé. Sa folie est maintenant remuante, il lui faut bouger. Elle tourne en rond, le cercle se ferme mais il va éclater, c'est le dernier temps. Le visage de Riva est comme plâtré, ce visage n'a pas servi depuis des mois. Les lèvres sont devenues minces, le regard peut maigrir, le corps ne plus rien signifier. Le corps de Riva, quand elle tourne, ne sert plus qu'à porter sa tête. Elle l'appelle encore, mais lentement, et à des intervalles très longs. Souvenir du souvenir. Le corps est sale, inhabité. Elle va être libre, ça va y être. Le cercle va éclater. Elle détruit un ordre imaginaire, renverse des objets, les regarde à l'envers. Quand elle regarde les angles bas de la chambre et qu'elle reconnaît quelque chose, ses lèvres tremblent. Elle sourit ou elle pleure. Même chose. Elle écoute. On dirait qu'elle prépare un sale coup, mais non. Elle écoute seulement les cloches de Saint-Étienne. Consommation complète de la douleur. Elle écoute le bruit de la ville, puis tourne de nouveau sur elle-même. Tout à coup, elle s'étire. La raison qui lui revient effraie. Elle chasse avec ses pieds. Quoi ? Des ombres. Riva arrive sur le quai de la Loire, à midi. Riva arrive en haut de l'escalier du quai comme une fleur. Jupe ronde et courte, naissance des cuisses et des seins. Sortie de Riva à l'aurore sur les quais de la Loire. On me laisse sortir. Je suis très fatiguée, trop jeune pour souffrir, dit-on. Il fait doux, dit-on. 8 mois déjà, dit-on. Mes cheveux sont longs, personne ne passe, je n'ai plus peur, voilà. Je ne sais pas à quoi je m'apprête. Ma mère surveille ma santé à cet effet. Je surveille ma santé. Il ne faut pas trop regarder la Loire, dit-on. Je la regarderai. Des gens passent sur le pont, la banalité est frappante parfois. C'est la paix, dit-on. Ce sont ces gens qui m'ont tendu. Personne ne m'a tendu. C'est la Loire qui me prend les yeux. Je la regarde et je n'arrive plus à les retirer de l'eau. Je ne pense à rien, à rien. Quel ordre! Riva rentre à Paris, de nuit. Quel ordre! Il me faut partir. Je pars, dans un ordre revenu. Rien d'autre ne peut m'arriver que d'exister. D'accord. La nuit est bonne, je quitte la Loire. La Loire est au bout de chaque route encore. Patience! La Loire disparaîtra de ma vie. À 7 heures du soir, la cathédrale Saint-Lazare sonnait l'heure. La pharmacie fermait. Élevée dans la guerre, je ne prenais pas tellement garde à celle-ci, malgré mon père qui m'en entretenait chaque soir. J'aidais mon père dans la pharmacie, j'étais préparatrice. Je venais de finir mes études. Ma mère vivait dans un département du Sud, je la retrouvais plusieurs fois par an aux vacances. À 7 heures du soir, été comme hiver, dans la nuit noire de l'occupation ou dans les journées ensoleillées de juin, la pharmacie fermait. C'était toujours trop tôt pour moi. Nous montions dans les pièces du premier étage. Tous les films étaient allemands, ou presque. Le cinéma m'était interdit. Le Champ de Mars, sous les fenêtres de ma chambre, la nuit, s'agrandissait encore. L'hôtel de ville était sans drapeau. Il fallait que je me rappelle ma petite enfance pour me souvenir de lampadaires allumés. La ligne de démarcation fut franchie. L'ennemi arriva. Des hommes allemands traversaient la place du Champ de Mars en chantant à heure fixe. Parfois l'un d'eux venait à la pharmacie. Le couvre-feu arriva aussi. Puis Stalingrad, le long des remparts, des hommes furent fusillés. D'autres hommes furent déportés, d'autres s'enfuirent pour rejoindre la résistance. Certains restèrent là, dans l'épouvante et la richesse. Le marché noir battit son plein. Les enfants du faubourg ouvrier crevaient de faim tandis qu'au grand cerf, on mangeait du foie gras. Mon père donnait des médicaments aux enfants des faubourgs. Je les leur portais 2 fois par semaine en allant prendre ma leçon de piano une fois la pharmacie fermée. Quelquefois, je rentrais en retard. Mon père me guettait derrière les volets. Parfois, le soir, mon père me demandait de lui jouer du piano. Après que j'ai joué, mon père devenait silencieux et son désespoir s'affirmait encore. Il pensait à ma mère. Après que j'ai joué, le soir, ainsi, dans l'épouvante de l'ennemi, ma jeunesse me sautait à la gorge. Je n'en disais rien à mon père, il me disait que j'étais sa seule consolation. Les seuls hommes de la ville étaient allemands. J'avais 17 ans. La guerre était interminable. Ma jeunesse était interminable. Je n'arrivais à sortir ni de la guerre, ni de ma jeunesse. Les morales d'ordre divers brouillaient mon esprit déjà. Le dimanche était pour moi jour de fête. Je dévalais toute la ville à bicyclette pour aller à Aisy chercher le beurre nécessaire à ma croissance. Je longeais la Nièvre. Parfois, je m'arrêtais sous un arbre et je m'impatientais de la longueur de la guerre. Cependant que je grandissais envers et contre l'occupant. Envers et contre cette guerre. La rivière me faisait toujours bien plaisir à voir. Un jour, un soldat allemand vint à la pharmacie se faire panser sa main brûlée. Nous étions seuls, tous deux, dans la pharmacie. Je lui pansais sa main, comme on m'avait appris. Dans la haine. L'ennemi remercia. Il revint. Mon père était là et me demanda de m'en occuper. Je pansais sa main une nouvelle fois en présence de mon père. Je ne levais pas les yeux sur lui comme on m'avait appris. Cependant, le soir de ce jour, une lassitude particulière me vint de la guerre. Je le dis à mon père. Il ne me répondit pas. Je jouais du piano. Puis nous avons éteint. Il m'a demandé de fermer les volets. Sur la place, un jeune Allemand à la main pansée était adossé à un arbre. Je le reconnus dans le noir à cause de la tache blanche que faisait sa main dans l'ombre. Ce fut mon père qui referma la fenêtre. Je sus qu'un homme m'avait écouté jouer du piano pour la première fois de ma vie.